m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bienvenue, chers amis, bienvenue sur Radio Courtoisie, dans Restons Courtois, que j'anime ce soir avec Marie-Charlotte Dubourblanc, et nous allons recevoir successivement, et parfois en même temps, on va tuiler, comme on dit, Samuel Piquet, Joshua Collin et Jacques de Gibbon, qui vont nous parler d'une manière générale de l'époque, qui va plus ou moins mal, plus ou moins bien, plutôt mal que bien, soyons francs, la langue est dégradée, la foi chancelle, les riches gouvernent, donc il y a certainement des choses à faire. Jacques de Gibbon nous parlera des prophètes sans armes, c'est-à-dire ceux qui réussissent à agir en étant pacifistes et non violents, et néanmoins particulièrement actifs dans la manière de faire gripper le capitalisme. Joshua Collin nous racontera son expérience de jeune converti, et Samuel Piquet, voilà, qui est moins jeune que Joshua Collin, va nous parler évidemment de la langue. Et comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux, je suis invité sur Radio Courtoisie de 17h30 à 18h30 pour expliquer pourquoi il est urgent de dépoussiérer et revisiter la langue française afin de changer de paradigme et d'upgrader nos interactions et notre synergie dans une logique win-win d'empouvoirment. Voilà, et bien c'est exactement à cause de ce sabir qu'il a écrit en 2023 un remarquable livre, Dictionnaire des mots haïssables. Et nous allons avec lui parler de la manière dont ces mots haïssables, hélas, continuent de polluer les conversations. Bonjour Samuel Piquet.
Bonjour.
Alors effectivement, vous êtes journaliste, vous avez d'abord été enseignant, oui. Vous enseignez le français dans des zones d'éducation prioritaires ou assimilées telles, dans les quartiers comme on dit.
Oui, pas seulement, mais oui.
Et aussi voilà, dans des beaux quartiers, qu'on n'appelle pas les beaux quartiers, ou plutôt qu'on n'appelle plus les beaux quartiers. Et il y avait quelque chose qui vous a étonné, c'est la manière dont l'éducation nationale, en quelque sorte, n'avait pas l'air de comprendre que le goût du beau, du bien, du juste était naturel chez les gens et que même les élèves qui paraissaient les plus déshérités, en tout cas les moins bourdivins pour ce qui est de l'héritage social, culturel et financier qu'ils avaient, étaient absolument passionnés dès que vous aviez quelques exigences, et voilà, pour qui, dans le récit, dans la narration, dans la qualité de la langue, et c'était des exigences que eux comprenaient et auxquels ils aspiraient confusément, mais que l'éducation nationale avait l'air de juger comme étant rétrograde, réactionnaire et inutile.
C'est exactement ça. J'ai rencontré sans doute plus d'obstacles dans ma volonté de transmettre une certaine exigence, plus d'obstacles de la part de l'éducation nationale que de la part des élèves eux-mêmes, oui. On pourrait résumer ça comme ça. C'est vrai que, notamment lorsque j'ai enseigné à Saint-Denis, je me suis rendu compte à quel point... les élèves étaient fascinés par la poésie dès lors qu'ils sentaient que le professeur l'était également. Et je l'ai peut-être même plus senti dans des milieux comme cela, parce qu'ils se rendaient compte de la différence qu'il pouvait y avoir avec ce qu'on leur propose dans la vie de tous les jours. Sans doute, il y avait une curiosité que je n'ai pas forcément retrouvée dans d'autres établissements. Alors, pas toujours en tout cas.
Voilà. Cette curiosité, évidemment, elle passait entre autres par la découverte d'un vocabulaire riche, voilà, de mots qui sonnent bizarrement, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler d'orthogénèse, mais même de mots plus simples comme vilebrequin ou de mots de la langue 17e, les rythmes n'étaient pas les mêmes. Et là, aujourd'hui, on nous explique que Aya Nakamura est une nouvelle poétesse de la langue française. On nous explique que son empouvoirement des femmes est absolument remarquable. Il y a une espèce de mensonge politique dans la manière de traiter la langue française, d'une certaine manière.
Surtout, ce qui est amusant, c'est que ceux qui en font une poétesse, ce ne sont pas nécessairement les gens qui l'écoutent. Aya Nakamura ne prétend pas sans doute elle-même réinventer la langue. Et on peut très bien aimer danser sur une musique sans pour autant qu'on en attende quoi que ce soit d'autre du point de vue du vocabulaire ou de la langue. Et ce qui est amusant, c'est que non, ce sont plutôt des politiques ou des journalistes qui vont la mettre au même niveau que Baudelaire. Ça n'a pas de sens. Et puis, ce n'est sans doute pas son objectif à elle, de toute façon. Donc, c'est ça qui est assez amusant. Mais pour en revenir à ce que vous disiez juste avant, sans nécessairement employer un vocabulaire recherché, l'agencement des mots eux-mêmes qui crée la poésie est suffisamment éloquent pour que les élèves se rendent compte qu'il y a là quelque chose d'à la fois mystérieux et en même temps de particulièrement génial. J'ai fait plusieurs fois l'expérience de réciter des poèmes de Baudelaire à mes élèves lorsque je leur faisais un cours sur les fleurs du mal. J'essayais d'en apprendre certains par cœur. Je n'ai jamais vu une classe insensible à cette poésie. C'est pas possible. C'est tellement miraculeux, c'est tellement génial que les élèves le sentent confusément.
Et puis il y a une musicalité qui plaît chez les élèves, justement, oui, un rythme.
Telle musicalité qu'il est parfois difficile de mettre en chanson certains poètes. Ah, et ça tombe un peu à plat.
Ces élèves donc sont sensibles à cette langue et il y a peu à peu une autre langue qui se substitue à la langue de Baudelaire, mais qui est aussi celle de Racine, de Corneille, de Jacotet. Enfin,
alors, il ne faut pas non plus idéaliser. C'est-à-dire que lorsque j'étudiais le Cid ou le Menteur de Corneille, j'avais parfois l'impression de faire un cours de traduction uniquement. Et c'est ça aussi qui est dommage. J'ai vu aussi des élèves, parce que je tenais aussi tous les mercredis après-midi un atelier théâtre à Saint-Denis. J'ai vu aussi des élèves abandonner au bout de quelques mois, après qu'on a fait plusieurs improvisations, une fois qu'on distribuait les textes, parce que certains n'avaient pas les facultés suffisantes pour lire des textes longs, pour les apprendre, pour les mémoriser. Et c'est une faillite terrible. Et j'en veux beaucoup à tous ces gens, notamment à l'Éducation nationale, pour qui cela n'est pas un problème.
Et alors, on a l'impression que ce n'est pas un problème avec deux arguments. Le premier argument, c'est qu'en fait, le niveau du bac monte et que les notes sont chaque année meilleures. Il y a de plus en plus de mentions. Et d'autres, donc cette espèce de vérité qu'on farde, qu'on masque, en expliquant que...
Ça s'est un petit peu inversé. Puisque... C'est-à-dire que même ceux qui arguaient que le niveau montait au détriment de la réalité, ont été contraints au bout d'un moment de revenir sur leurs propos, notamment à cause des classements PISA, etc.
Mmh. Voilà. Et donc, maintenant, on est en train de dire oui, mais ce n'est pas grave, en fait, d'une certaine manière, le savoir est fasciste, la connaissance est fasciste, la grammaire est fasciste. Il y a régulièrement des groupements d'éducateurs qui expliquent voilà, il faut dépoussiérer la langue, comme vous le disiez, il faut faire en sorte de passer à une autre langue, à une autre grammaire, une autre syntaxe, un autre vocabulaire.
Oui, c'est souvent dans l'éducation nationale qu'on fait un constat et qu'on en tire les mauvaises conséquences. On s'aperçoit que les gens qui font du latin sont des gens issus plutôt des classes aisées. Et donc, plutôt que d'essayer d'attirer d'autres élèves vers cette filière, on va peu à peu supprimer le latin. C'est un peu la même histoire qu'il y a eu pour le redoublement. On a constaté que beaucoup d'élèves qui redoublaient ne progressaient pas l'année suivante. Et on a décidé de quasiment plus faire redoubler. Or, il y avait quand même quelques réussites. Et quels sont les élèves qu'on fait passer de classe en classe sans avoir le niveau qui réussissent? En revanche, il n'en a aucun, je pense.
Dans Wesh, Mademoiselle, Myriam Toulza racontait, au compte qu'elle a enseigné en ZEP, racontait l'appétit de français et de latin de ses élèves de 4e et 3e qui, au contraire, étaient absolument passionnés par quelque chose que d'aucuns auraient pu croire hors de leur portée intellectuelle ou culturelle.
Bien sûr, on ne va pas les passionner en leur faisant rédiger des notices comme le préconisait à une époque Philippe Mérieux. Non, c'est en les invitant dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas et en essayant de leur transmettre la passion qu'on peut avoir pour ces auteurs-là.
Alors, il y a donc cette espèce de dégradation complète et d'une certaine manière, la langue des journalistes et la langue des politiques accompagne cette dégradation et même elle la devance. Voilà, des mots comme empouvoirment, donc la francisation de empowerment, mais aussi Donc, d'autres mots, impacté, résilience, qu'on met désormais à toutes les sauces, ou aussi des mots plus complexes qui sont censés désigner de nouvelles réalités, polyamour, par exemple. Et vous en parlez dans votre dictionnaire, polyamour, concept servant la plupart du temps à justifier une infidélité. J'ai beaucoup...
Oui, bah, alors il y a
un côté un peu Flaubert, Léon Blois, dans votre dictionnaire des mots haïssables.
Il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement un certain nombre de syntagmes qu'on feint d'inventer, mais qui décrivent en réalité des choses qui existaient déjà auparavant. Il y a toute une mode en ce moment à développer des concepts en ING, des anglicismes, et puis on vous explique ce que c'est. En réalité, bon, ce sont des choses qui ont toujours existé. Il y a ensuite une paresse de la part de ceux qui sont censés employer un langage châtié. J'ai le souvenir d'avoir eu des professeurs de français qui m'ont donné envie d'étoffer mon vocabulaire, notamment une professeure en quatrième qui employait des mots, qui employait un langage châtié, qui m'a donné envie d'en savoir davantage et même d'apprendre certains mots du dictionnaire. Et j'ai l'impression que beaucoup ont renoncé un peu à cette exigence, que ce soit les professeurs, mais aussi les journalistes, qui n'ont pas leur pareil souvent pour reprendre exactement les mêmes formules, les mêmes mots, et c'est-à-dire qu'on en vient très souvent à utiliser le même mot, sans cesse le même mot, pour décrire des réalités très diverses. Donc il y a une perte de nuances, mais il y a aussi des mots de plus en plus creux, et des mots qui ne décrivent pas la réalité. Je pense par exemple à « dérapage », qui est employé sans recul critique, très souvent, par les journalistes, sans réflexion. Et on se demande ce qui est de l'ordre vraiment du dérapage, quand on sait que les politiques ou les invités en général contrôlent énormément leur communication. Donc soit c'est un dérapage contrôlé, soit c'est au contraire une volonté de créer une polémique. Mais ce sont très rarement de véritables dérapages, c'est-à-dire des choses qui nous ont échappé.
Il y a ça aussi avec le verbe « choquer ». Je trouve qu'on utilise aujourd'hui « choquer » à tout bout de champ. Oh là là, je suis choquée. T'as vu, il a dit ça, je suis choquée. Ou ah, c'est choquant. C'est pareil avec gênant. Tout
oui,
est gênant dans la
oui,
nouvelle
génération. Oui, ce sont
Mais justement, c'est ce que vous disiez, il n'y a pas cette notion de mesure.
Oui, c'est le langage volontiers outrancier, le langage journalistique volontiers outrancier qui crée ça. Choqué, tout est glaçant,
oui.
Tout est poignant, tout est iconique,
ah oui,
tout est décalé, tout est irrévérencieux. Et c'est absolument insupportable. C'est absolument insupportable parce qu'il y a un mélange entre le langage, la langue journalistique, la langue politique, la langue du monde du travail, la langue du développement personnel et même la littérature, j'emploie avec beaucoup de guillemets, contemporaine.
Il y a une espèce d'hystérisation en fait, de la vie. On a l'impression qu'on est obligé de vivre intensément et que cette intensité qui en fait n'existe pas. Fondamentalement, j'ai pris le train, je suis allé à la boule, j'ai acheté une glace, je suis revenu.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que le mot addictif a pris des connotations, a pris une connotation améliorative dans la bouche ou sous la plume de beaucoup de journalistes. Une série addictive, c'est l'équivalent d'une série géniale.
Voilà, ou juste d'une série qu'on a plaisir à regarder, et un feuilleton dont on attend avec impatience le prochain épisode. Mais effectivement, c'est plat, donc il faut au contraire à chaque fois singer l'enthousiasme. Parmi ces mots qui sont fascinants, et là j'y pense beaucoup depuis le résultat des élections, c'est le mot « responsable ». Je me souviens de Manuel Valls expliquant qu'il était responsable et lui-même était responsable en restant au pouvoir malgré ses échecs et en revanche tous ses adversaires manquaient de responsabilité puisqu'ils ne démissionnaient pas de leur poste.
Oui.
Et
j'ai consacré pas mal de place au mot responsabilité d'ailleurs dans mon ouvrage et notamment à la locution en responsabilité. Qui en dit long, parce qu'effectivement, être en responsabilité, c'est pas tout à fait la même chose qu'être responsable. Être en responsabilité, c'est simplement occuper une fonction. Être responsable, c'est autre chose. Et on n'a jamais entendu autant les politiques dire qu'ils sont responsables que depuis qu'ils ne remettent pas leur responsabilité
en jeu.
Exactement. Qu'ils ne sont comptables de rien. Le général de Gaulle était responsable puisqu'il... Il remettait en jeu son pouvoir, il soumettait ses décisions à des référendums parfois, Et c'est très drôle parce que, en même temps que cette fausse responsabilité, il y a un mot que les politiques emploient souvent, c'est j'assume.
Oui.
J'assume qui est devenu une sorte de verbe performatif, c'est-à-dire un peu comme le verbe pardonner. C'est comme si le fait de dire j'assume permettait à la personne d'assumer ou faisait qu'elle assumait. Et je dirais même que j'assume est devenu la seule façon d'assumer très souvent pour les politiques.
Oui.
Et on n'est plus le j'assume des politiques lorsqu'ils ont fait des erreurs, etc., où ils ne remettent pas leurs responsabilités en jeu, n'est finalement plus très éloigné du allez vous faire voir.
Mais c'est même très exactement ça. Quand un politique aujourd'hui nous dit j'assume, ça signifie j'entends bien les reproches que vous me faites, mais je ne compte absolument pas changer ni de manière de faire, ni évidemment abandonner mon poste. Et donc je vous offre le spectacle d'un homme droit dans ses bottes, ou d'une femme d'ailleurs droite dans ses bottines, qui va au contraire continuer d'une manière impavide à assumer sa fonction en responsabilité et en capacité.
C'est exactement ça. Et s'en suivra une ribambelle de mots creux et vides de sens, comme on va changer de logiciel ou de paradigme, on va utiliser tous les leviers possibles, on l'a mis dans l'agenda, tous les dossiers sont sur la table, etc.
Et c'est, on l'a vu là évidemment avec ces campagnes municipales, avec la manière dont Emmanuel Grégoire et Anne Hidalgo assumaient le recrutement, somme toute un peu aléatoire, et, d'un certain nombre de pédocriminels à l'intérieur des fonctions périscolaires.
Oui, puis alors ça a été pendant les municipales, je trouve, le festival des anathèmes. Hein. C'est-à-dire que là, il y avait déjà une polarisation du débat, mais j'ai l'impression qu'elle a atteint son acmé pendant ces municipales, et c'est assez inquiétant pour le débat public, parce qu'on le contourne sans arrêt. Hein. Tout n'est qu'accusation d'instrumentalisation, de récupération, d'hystérisation du débat, etc. Et en définitive, le vrai débat n'a quasiment jamais lieu.
Et avec ces mots qui sont de plus en plus des mots coquilles dans lesquels chacun peut fourguer ce qu'il veut, où le fait d'assumer consiste précisément à ne rien assumer, le fait d'être responsable, à se dénier toute responsabilité. Il y a aussi la manière dont, vous le dites dans un texte que vous avez écrit sur la mort de Quentin de Ranque, l'idée d'aller chercher vraiment le crime pensé chez les autres et, sous la phrase la plus anodine, de déceler les intentions les plus horribles.
Oui, on a parfois l'impression que on peut commettre les actes les plus hideux, les plus répréhensibles. On trouvera toujours quelqu'un pour les minimiser. En revanche, mal pensé est devenu un peu le crime moderne par excellence.
Voilà. Que l'on vous donne des coups de pied dans la tête lorsque vous êtes au sol ne choquera une certaine frange de nos concitoyens qui ne verront même pas le caractère exceptionnel d'un tel meurtre auquel ont participé des membres d'un mouvement si bien rattaché à un parti que leur cofondateur est député et qu'un stand invitant au don leur était dédié pendant les universités des LFI et ce malgré leur dissolution. Mais cela n'a finalement rien d'étonnant, t'en semble certains vivre désormais dans une réalité parallèle où l'on ne pleure la censure, la post-vérité et l'inversion des valeurs, j'espère que je fais sentir les guillemets, que lorsque Trump est au pouvoir, comme si elle n'avait existé nulle part ailleurs ces dernières années. Et il y a ça aussi dans ces mots haïssables. Ils ne sont pas tant haïssables parce qu'ils sont mal formés, parce que ce sont de mauvaises traductions de l'anglais, parce que généralement ils viennent remplacer un mot français qui existe déjà, mais que la culture empêche d'aller chercher parangon à la place de benchmark. Mais voilà, donc on ne dit plus parangon, donc on va tous benchmarker ou brainwasher. Et ils sont haïssables.
On ne peut
surtout
pas dire que Emmanuel Macron nous ait beaucoup aidé sur
non,
ce coup-là.
Non, à part Poudre de Perlimpinpin, où on a senti qu'il avait sorti à peu près tout ce qu'il connaissait de la vieille France, le reste a été un festival d'anglicisme, et avec d'ailleurs une manière de parler anglais qui est remarquable. On a tous été séduits par l'accent du président et sa maîtrise.
Ça n'a pas été le pire hein, parmi tous les présidents qu'on a eus. On en a eu un ou deux.
Ah oui, mais précédent notamment qui.
Je n'ai jamais entendu un président français parler autant anglais avec un accent aussi marqué aussi souvent en fait. C'est peut-être ça. C'est peut-être la surabondance
en
fait.
Souvent parler anglais. En voilà.
Et ces mots sont haïssables parce que à chaque fois ils sont en fait une espèce de mensonge sur pattes qui est fourni avec sans mode d'emploi, mais un mode d'emploi très instinctif. On sait que quand quelqu'un va nous dire qu'il est résilient, c'est sans doute en fait qu'au contraire, il a été profondément choqué par la chose, mais qu'il ne se passera rien, ou qu'au contraire, il n'a strictement rien à battre de ce qui vient de se passer. Et donc, il félicite ses concitoyens de leur résilience, alors qu'eux-mêmes sont en train de crever de douleur ou d'essayer de protester sans qu'on les entende.
Oui, puis il y a aussi, avec le mot résilient et d'autres, je pense notamment à rebondir, agilité, se réinventer, un transfert un peu de la responsabilité des structures collectives à l'individu.
La co-création aussi.
C'est-à-dire que, en définitive, si l'individu échoue, s'il est licencié, c'est parce qu'il n'a pas su se réinventer.
C'est bien de sa faute.
C'est parce qu'il n'est pas prêt à rebondir, il n'est pas suffisamment agile.
Il n'a pas traversé la rue.
Oui, et c'est une dérive aussi assez remarquable et assez constante de tout pointer vers l'individu.
Mais ce
tout reprocher à l'individu.
Ce vocabulaire que vous présentez là, c'est un vocabulaire qui est propre au monde de l'entreprise, au monde de l'agence, agence de communication par exemple, agence marketing. C'est tout à fait cohérent avec la Startup Nation, justement, d'Emmanuel Macron.
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai l'impression que pendant ces deux derniers mandats, de nombreux mots qui étaient réservés au monde de l'entreprise se sont invités dans le champ politique, oui. C'était déjà un peu le cas avant, mais il y a eu une sorte d'accélération avec la Startup Nation.
Oui. On sent en effet que le vocabulaire du management, comme on dit maintenant, de la gestion de l'entreprise, de la gouvernance, enfin là aussi, de tous ces mots un peu vagues, avec un halo de prétendue science, d'une certaine manière. Quand on parle de gouvernance, tout de suite, on a l'impression que c'est beaucoup plus sérieux que juste le gouvernement. il y a une manière de gérer, effectivement, et non pas de gouverner. Il y a une manière de s'occuper des choses plus que des êtres. Il y a une manière d'expliquer que la responsabilité qu'on n'assume pas précisément est celle en fait des Français. J'ai été fasciné quand Bayrou, par exemple, a expliqué que le vrai problème de la dette, c'était que les Français dépensaient trop, en fait.
Oui, oui. Et tout ça... Avec...
Lui-même n'avait voté rigoureusement aucun budget auparavant. Son parti n'avait appelé à voter pour aucun des personnes qui ont dirigé la France.
Oui, tout à fait, avec une infantilisation grandissante en plus.
Quand vous écrivez ce dictionnaire des mots haïssables, donc en 2023, quel est l'élément déclencheur, quelle est la chose qui vous a lentement exaspéré au point que vous avez décidé de basculer dans l'écriture?
C'est une bonne question. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu un élément déclencheur.
C'est juste une saturation.
C'est plutôt une accumulation et une saturation, voilà. Oui.
Et brusquement, ça a cristallisé et le livre est sorti. Il est sorti rapidement. Vous collectionniez déjà tous ces mots haïssables?
Oui, j'écrivais une chronique hebdomadaire dans Marianne sur un mot. J'ai eu l'idée, enfin, le Cherche-Midi aussi a eu l'idée...
De les reprendre.
D'en faire un dictionnaire des mots haïssables, aussi par opposition à tous les dictionnaires amoureux qui pullulent depuis 10 ans. Il y a des dictionnaires amoureux à peu près sur tout. Et je trouvais ça à la fois intéressant de prendre le contre-pied et d'un autre côté de rendre un peu à la haine ces lettres de noblesse, parce que ça peut être bon de haïr certaines choses, de haïr le mal, haïr... l'idiotie.
Haïr la haine.
Haïr la haine, haïr ces mots creux qui n'ont aucun sens, haïr le fait qu'on nous prenne pour des imbéciles. Et on regroupe très souvent maintenant un peu tout derrière l'expression discours de haine, je me suis dit que c'était un contre-pied intéressant.
Dans le dernier numéro de la revue L'Audace, dans laquelle vous tenez une chronique, donc la revue de Natacha Polony, il y a à la fin une bibliothèque idéale avec notamment un éloge de l'intolérance de Žižek, j'espère que je le prononce correctement, et qui est là aussi, participe à mon sens de la même démarche que la vôtre, c'est-à-dire sous prétexte que tout le monde doit pouvoir parler, en fait on a ripolliné le langage, mais en même temps on l'a arasé, il y a des mots autorisés, des mots non autorisés, et on finit par parler une langue totalement désincarnée.
Oui, il est toujours intéressant d'essayer de comprendre ce que les mots à la mode remplacent. Quels autres mots ils remplacent. Je pense que c'est la fraternité qui a été remplacée, en grande partie. La fraternité qui a été remplacée par la tolérance. On n'essaye plus d'être frères, on essaye de se tolérer, par la bienveillance, par le vivre ensemble, par les solidarités au pluriel.
Qui ont remplacé aussi la charité.
Oui. Et c'est déjà un petit renoncement.
Mais tous ces termes, d'ailleurs, ont été plutôt choisis par des dirigeants politiques, par des partis politiques. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement une volonté, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, de rendre le débat politique et donc la chose publique impossible?
Je ne sais pas si c'est une volonté ou si c'est inconscient, mais ça participe en tout cas de cela, oui.
Dans les mots haïssables, et particulièrement haïssables, il y a le mot complotiste, par exemple. Et vous lui avez consacré un petit texte. En histoire, on ne montre rien du tout. Enfin, on ne montre pas tant que ça. Ce qu'il y a de plus imprévu, c'est toujours l'événement, rappelé Charles Péguy. Et vous continuez en disant que les complotistes, évidemment, sont accusés, mais que néanmoins, les vraies conspirations sont rares, car comme l'explique Péguy, leur chance de réussite est faible. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'y a jamais de complot, et surtout, cela ne doit pas occulter l'existence d'arrangements a posteriori, et plus généralement, d'intérêts convergents. L'un des problèmes posés par le terme complotisme, dont les premières occurrences datent seulement des années 80, est que celui-ci est souvent employé improprement, puisqu'on l'utilise pour désigner des discours qui ne relèvent pas de la théorie du complot, par exemple l'idée que nos représentants seraient tous pourris, ou qu'il pourrait exister des arrangements entre les puissants. En outre, les professionnels de l'anticomplotisme ont la passion de l'amalgame. Ils adorent mettre sur le même plan ceux qui critiquaient le pass sanitaire et les platistes, ou renvoyer dos à dos les négationnistes et ceux qui avaient du mal à croire que l'affaire Epstein ne recelait plus de zones d'ombre, oubliant que loin de convaincre les vrais complotistes, ils risquent seulement de conforter les plus radicaux dans leur paranoïa.
Oui, c'est ça qui est un peu agaçant parfois avec l'emploi à tout bout de champ du mot complotiste. Je suis bien placé pour savoir qu'il y a de vrais complotistes et parfois j'étais assez étonné par certaines thèses de mes élèves et par la facilité qu'ils avaient à croire tout ce qu'ils lisaient sur Internet.
Les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux aussi.
Ça réduit beaucoup l'information.
Il y a parfois une catégorie de gens aussi qui se défient de tout ce qui vient des médias traditionnels et en revanche qui perd tout son sens critique lorsqu'il s'agit de médias alternatifs. Donc je ne nie pas que cela existe, bien au contraire. Mais c'est vrai que cette faculté qu'il y a à mettre sur le même plan des gens qui vont remettre en question l'intérêt d'un pass sanitaire les platistes, ou tout mettre derrière le mot complot. Puis il y a un complotisme autorisé aussi, dès lors qu'il s'agit des Russes. On a le droit de, sans la moindre preuve, d'élaborer toutes sortes d'hypothèses ou d'autres. C'est cet exemple qui me vient, mais il y a d'autres complotismes autorisés. En revanche, on va taxer de complotisme de simples remises en question ou une simple suspicion.
Et ce mot complotiste, ça fait partie des mots haïssables et qui sont haïssables aussi parce qu'ils servent à disqualifier la parole de l'autre. Et alors, ce qu'il y a de très amusant avec l'affaire Epstein, c'est que du coup, les anticomplotistes de profession se retrouvent un peu démunis. Le complot avait l'air d'être vrai. En fait, ce n'est pas un complot. Il y a vraiment un type abominable et qui avait, par l'argent et par d'autres moyens de bribes, fait en sorte de réunir autour de lui une cohorte de gens intéressés. Et voilà nos anticomplotistes qui se répandent sur tous les plateaux pour expliquer que, bien sûr, le vrai problème de l'affaire Epstein, c'est un peu comme Mohamed Merah qui n'était pas le bon assassin. Le vrai problème de l'affaire Epstein, c'est que ce n'est pas le bon complot.
C'est, voilà. Oui, et c'est une fois encore dommage pour le débat, parce qu'il y a cette tendance à disqualifier son adversaire, voire le psychiatriser, en le traitant de phobe de plusieurs façons. Il y a toute une ribambelle de mots en phobe qu'on peut utiliser quand ce n'est pas fasciste ou d'autres choses. Et là encore, très souvent, la disqualification remplace les arguments. C'est regrettable. Oui.
Alors, en parallèle de cette carrière de journaliste sérieux à Marianne et d'écrivain, vous avez aussi collaboré encore au Gorafi, cette parodie du Figaro, cette parodie de la... comment dire, de la parole journalistique, et avec des choses qui sont toujours assez drôles, comme par exemple, battu à peau, François Bayrou appelle Emmanuel Macron pour lui annoncer qu'il redevient Premier ministre, on va passer l'image, pour lutter contre l'abstention, chaque bureau de vote accueillera un point de deal, et ça c'était une information locale de Marseille. Alors, le Gorafi, dont on apprend qu'il va enfin connaître une version papier,
c'est la bonne nouvelle.
Le Gorafi devient le premier média à lancer une édition papier. C'est le gros titre de journal. Moi, ça m'amuse beaucoup. J'appartenais au groupe Jalon. On avait lancé le Figagaro il y a très longtemps. Nous étions drôles bien avant vous.
Oui, on s'est dit que c'était dommage que les médias n'existent que sur Internet et que ce serait intéressant de lancer le premier journal papier. C'est vrai, ce qui est intéressant dans le Gorafi, c'est qu'on s'en rend compte parfois que nos prophéties, entre guillemets, se réalisent quelques années après, c'est-à-dire des articles qui semblaient loufoques il y a quelques années deviennent réalité quelques années plus tard. Il y a aussi, ce qui m'amuse aussi dans le Gorafi, c'est qu'on peut enfin utiliser les mots haïssables avec recul.
Et ce Gorafi, donc ça existe depuis longtemps, donc c'est d'abord un site internet, ça a été aussi des recueils. Il y a une espèce de soulagement de pouvoir effectivement employer cette langue viciée de la manière la plus grotesque possible.
Oui, tout à fait. À la fois d'employer cette langue de façon parodique, parce que le ressort comique du Gorafi joue beaucoup sur la ressemblance avec les véritables articles journalistiques, dans le rythme, dans la présentation, dans la musicalité. Et aussi le fait de pouvoir s'amuser un petit peu de l'actualité, parce qu'elle n'est pas toujours très réjouissante.
Petite ritournelle. Et on va passer dans la deuxième partie de cet entretien en accueillant notamment Joshua Collin, jeune auteur, qui a écrit un remarquable ouvrage, « Nous, les nouveaux baptisés ». Et voilà. Et donc, bonjour Joshua Collin.
Bonjour, merci de l'invitation.
Je suis ravi de vous voir parce que dans votre ouvrage, « Nous, les nouveaux baptisés », vous racontez que vous avez eu une enfance plutôt heureuse, avec des parents plutôt aimants, qui vous ont emmené dans des villes épatantes, comme Londres, ou dans des pays remarquables, comme le Chili. Et à 8 ans, vous revenez chez votre grand-mère, et c'est là où vous découvrez une foi traditionnelle, non pas au sens où elle serait traditionnaliste, mais traditionnelle, parce que voilà, il y a un crucifix, il y a une vierge à l'enfant. Donc, vous êtes en Normandie et vous êtes heureux. Et ça m'a fait penser à un texte, justement, de vous, Samuel Piquet, qui est pas tellement sur le fait qu'il y ait une statue de la Sainte Vierge dans le salon de votre grand-mère, dont vous parlez somme toute jamais, en fait. Je tiens à vous le reprocher. Qu'est-ce que ça fait d'être parent? Ça doit être bizarre, non? M'a demandé cette semaine ma fille de 7 ans, avec un sourire dans lequel j'ai cru déceler, sinon de l'exaltation, à tout le moins l'assurance d'une réponse enthousiaste, née de la certitude d'être aimée. J'ai beaucoup échoué ces dernières années dans des domaines qui m'apportaient énormément, et je dois dire que ces marques d'affection et de complicité laissent augurer que je ne serai pas un mauvais père, me laissent rarement insensible. Hier soir, en allant me coucher, j'ai découvert sous l'oreiller un dessin qu'elle y avait soigneusement caché représentant des anneaux olympiques. Faut-il en déduire que le temps passé devant les épreuves sportives a pu lui faire penser que cette illustration me ferait plaisir? Je laisse les mauvaises langues répondre à cette suggestion. Toujours est-il que cette attention m'a touché. Au bas de la page figuraient son nom et le mien, pas celui se référant à ma fonction paternelle, mon vrai prénom. Je suis resté interdit quelques secondes devant l'évocation de ce binôme père-fille et devant mon nom que j'ai relu plusieurs fois comme si je le redécouvrais. J'avais de nouveau l'impression d'être quelqu'un, pas quelqu'un d'important mais quelqu'un de parfaitement identifiable, quelqu'un pour quelqu'un d'autre, c'est déjà tellement plus que le néant. Il y a plusieurs textes comme ça où vous parlez de votre relation avec les enfants qui sont touchants, écrit dans une langue à la fois simple et délicate. C'est vraiment remarquable.
Oui, excusez-moi, je suis un petit peu ému. Je pense que c'est aussi ce qui m'a donné envie d'être professeur. J'ai reçu beaucoup de mes parents et je ne me voyais pas, ayant eu cette chance, ne pas essayer d'en transmettre un petit peu aux autres.
Merci pour cette transmission. Et vous-même, Joshua Collin, donc vous parlez de la famille, mais aussi vous parlez justement de cette famille qui disparaît. Et vous aussi, vous faites allusion à quelques-uns des mots haïssables qui viennent recouvrir cette déconstruction de la famille. Pierre, père de deux enfants, abandonne les siens à 40 ans pour retrouver sa liberté. Le langage de notre époque habille de nobles mots les trahisons les plus vulgaires. Il ne fuit pas ses responsabilités, il se reconstruit. Il ne détruit pas sa famille, il s'épanouit. Il s'installe dans un studio décoré au minimalisme étudié, fréquente des jeunes femmes qui pourraient être ses filles, etc. Ses enfants le voient un week-end sur deux quand ses nouvelles conquêtes le lui permettent. Cette génération d'enfants grandit dans la certitude que tout est éphémère, jetable et remplaçable, que l'engagement n'est qu'un mot creux, une relique d'un autre temps. Comment est-ce que vous voyez la manière dont aujourd'hui la langue des médias, les décisions des politiques ont en quelque sorte détruit cet environnement qui a été le vôtre ?
On vit dans une société qui fait l'apologie, si j'ose dire, du plaisir personnel. On cherche à assouvir ses besoins, ses plaisirs, mais sans réfléchir aux conséquences que ça peut avoir sur la société en général, sur son mariage, sur ses enfants, ou tout simplement sur les autres membres de la société. Je pense aux publicités Glidden qu'on voit en ce moment dans le métro parisien, qui font la promotion de l'infidélité, n'est-ce pas en restant fidèle qu'on se trompe le plus, etc., avec des slogans très provocateurs. Et tout ça est affiché dans le métro. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui voient ça. Et c'est une hypersexualisation à la fois des enfants, mais plus largement des adultes, et qui est très nocif pour les familles, je pense.
La publicité fait partie aussi de ces fourriers d'un langage dénaturé.
Oui, c'est une source inépuisable de mots haïssables. Oui, la publicité. C'est terrible.
Dans votre méthode, si j'ose dire, vous écoutez la télévision, vous lisez les journaux, vous regardez les publicités. Ces mots haïssables que vous voyez émerger avec attention.
Non, malheureusement, j'ai absolument besoin de rien faire pour qu'ils arrivent à mes oreilles. Oui, oui. Oui. Je les note. Je me contente de les noter dans une liste et d'essayer de comprendre. Ce qui est intéressant dans ces mots, est-ce que c'est leur changement de sens ? Est-ce que c'est qu'ils recouvrent une autre réalité que celle qu'ils semblent désigner ? Est-ce que c'est parce qu'ils constituent une forme d'habillage quelconque ? Je pense que dans les mots que vous avez cités tout à l'heure, il y en a pas mal qui habillent une réalité, qui essayent de l'habiller de façon positive, mais... Ça ne reflète pas forcément.
Je recite l'un de vos mots, polyamour désigne le plus souvent une infidélité. Voilà. Joshua Collin, dans la première partie de votre livre, Nous les nouveaux baptisés, confidence d'une génération qui revient au Christ, vous racontez en fait cette conversion et votre baptême qui a eu lieu l'année dernière, en 2025. Vous êtes un jeune baptisé, vous faites partie d'ailleurs de tous ceux qui justement ont peu à peu... réévaluer la manière dont l'Église catholique, à travers des mots médiatiques, et on parlait de Beyrouth tout à l'heure, avec les mots, par exemple, des députés LFI au moment de l'affaire Bétaram, mots que le même député LFI a été incapable de prononcer au moment où on révélait la pédophilie de tout le personnel périscolaire mis en cause. Vous avez été capable d'aller au-delà du discours, justement, qu'on porte actuellement sur l'Église catholique, de la manière dont on accuse les clercs de tous les maux, sont parfois à juste titre, mais dont l'Église est irrémédiablement ringarde, dépassée, n'est pas en prise avec son époque, propose une manière de vivre, d'être et de penser qui n'a rien à voir avec l'actualité. Et donc, vous, au contraire, vous l'avez trouvé terriblement actuel.
Oui, tout à fait. Parce que je pense que plus la société se délite, justement, plus l'Église redevient audible et redevient ce phare dans la tempête qui peut nous guider vers la lumière. Vous parlez du corps. Moi, ça me fait penser à la théologie du corps de Jean-Paul II, qui est aujourd'hui très révolutionnaire. qui nous explique que l'homme n'est pas un animal guidé par ses instincts, mais c'est un être unifié, corps et âme, qui est appelé au don de soi. Et la sexualité humaine, c'est pas un instinct à assouvir, c'est un langage spirituel qui se partage. Voilà, c'est une capacité de don total envers, envers son mariage et puis envers ses enfants ensuite. Et c'est une vision qui libère au lieu d'opprimer. Moi, j'appartiens à la génération Tinder, c'est-à-dire qu'on télécharge des applications, on met des belles photos de soi, bien retouchées, bien orientées, et puis ensuite, c'est le supermarché sentimental, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on on va swiper à droite, swiper à gauche, choisir des dizaines de femmes.
Alors, nous sommes sur Radio Courtoisie, donc mais... swiper signifie chasser l'image à droite ou chasser l'image à gauche d'un, d'un pouce ou d'un index négligent.
Excusez-moi. Mais effectivement, c'est le symptôme d'une génération qui a perdu l'art d'aimer, parce qu'on consomme à fond, mais au final, ça nous laisse complètement vide et malheureux.
Dans votre redécouverte du catholicisme, non pas que vous, les parents, vos parents vous en aient éloigné, c'était juste quelque chose qui existait ailleurs, donc chez, vos, chez votre grand-mère singulièrement. Et y a-t-il eu une redécouverte aussi d'un vocabulaire précis? Et est-ce que ce sont, d'une part, la manière de désigner les ornements dans votre livre, on sent dans la première partie une certaine exaltation à citer quelques mots latins, à être très précis dans la description de, des liturgies. Est-ce que ça fait partie d'une redécouverte enthousiaste? Juste la langue.
Mais bien sûr, au-delà de la langue, c'est-à-dire que moi, le catholicisme, je ne savais pas que ça existait, quelque part. C'est que je voyais des cathédrales, je voyais des églises, je voyais de temps en temps des prêtres dans la rue. Mais je n'avais aucune idée que derrière les portes des églises, il y avait des liturgies. Aucune idée qu'il y avait des messes, qu'il y avait des célébrations, des confessions. Voilà, je ne connaissais pas ce monde-là parce qu'il ne m'avait pas été transmis. Que ce soit la langue qui va avec, que ce soit l'art qui va avec, que ce soit l'architecture. C'est vraiment un monde qui m'avait été occulté. Et quand j'ai commencé ma quête spirituelle à l'âge de 18 ans, moi j'ai choisi de me convertir en entrant dans une cathédrale le jour de mes 18 ans. Et en fait, j'ai choisi de me réapproprier cet héritage chrétien qui ne m'avait pas été transmis, pas par mauvaise foi, mais simplement parce que voilà, c'était considéré comme quelque chose de dépassé. Et moi, j'ai eu toute une période de réappropriation de ce patrimoine-là, que ce soit à travers des lectures, à travers des visites de musées, des visites de, voilà, d'églises, de cathédrales, de lieux saints, aussi en Israël, au Vatican, etc., donc tout autour de notre Europe largement sécularisée. Et beaucoup de jeunes catéchumènes en fait redécouvrent ce patrimoine-là à l'âge adulte et se rendent compte qu'en fait il y a des merveilles à découvrir.
Et c'est quasiment une rééducation en quelque sorte.
Bien sûr. Moi je ne connaissais strictement rien au catholicisme. Et d'ailleurs c'est ce que j'explique dans le livre. Ma marraine Marie-Françoise qui m'a accompagné tout au long de mon parcours de catéchuménage jusqu'au baptême a commencé par m'offrir la méthode UCAT. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode UCAT, c'est une méthode pour apprendre le catéchisme aux collégiens. Et au début, j'ai été un petit peu vexé en me disant, bon, bah, j'avais 21 ans à l'époque, je n'avais pas forcément envie de faire des cours pour les collégiens. Et en fait, elle a eu raison, parce que cette méthode-là enseigne les bases de la foi. Qui est le Christ? Qu'est-ce que la liturgie? Pourquoi le prêtre vous parle du credo? Pourquoi est-ce qu'il vous lit l'évangile debout? Qu'est-ce qu'il faut répondre quand il vous dit telle phrase ou telle phrase? Et moi, j'étais complètement perdu au début. La première fois que je suis allé à la messe, j'avais l'impression de déranger. Je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait se lever, quand est-ce qu'il fallait se rasseoir, quand est-ce qu'il fallait répondre, en quelle langue, etc. Et tout ça, en fait, c'est des choses très très simples, mais qui étaient complètement inconnues pour moi.
Ça rejoint, pardon Samuel Piquet, ce que vous disiez au tout début, justement, cette sorte de barrière de la langue que vous aviez parfois avec certains de vos jeunes quand... vous leur lisiez du Baudelaire ou d'autres poèmes, vous étiez obligé de réexpliquer plus le vocabulaire que le fond. C'est un peu ce que vous ressentiez aussi finalement quand vous avez redécouvert la messe. Ce côté barrière de la langue, est-ce que c'est par manque de transmission? Est-ce que c'est un désintérêt de la part des adultes pour les jeunes?
Il y a un manque de transmission, puisque à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont censés... employer le langage le plus châtié possible ne le font pas, ça n'aide pas les élèves à acquérir du vocabulaire. Ensuite, il y a aussi malheureusement moins de lecture. C'est aussi par imprégnation, en lisant beaucoup, qu'on développe son vocabulaire, qu'on développe sa faculté à parler, à formuler des arguments, à écrire le plus précisément possible, avec le plus de nuances possible. Donc nécessairement, ces jeunes qui lisent de moins en moins, c'est une grande perte pour eux avant tout.
Mais c'est pas simplement lire de moins en moins, c'est aussi être de moins en moins exposé à la hauteur, la profondeur et la largeur de l'univers. Voilà, dans les musées, on écrit maintenant parfois Louis XIV en chiffres arabes et non pas en chiffres romains. On simplifie les cartels, on chasse les expressions complexes, on fait en sorte d'avoir un appauvrissement du contenu de l'œuvre, avec aux deux extrêmes. Parfois, on voit un dragon rouge en train de supprimer d'une de ses sept ailes, mais la verte et non pas les autres qui sont bleues, une rangée d'anges jaunes, et on nous dit huile sur toile 1456. Et tant pis, pour débrouille-toi pour comprendre ce que ça signifie. Donc, on voit bien que. Il y a aussi, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on trouve dans votre dictionnaire des mots haïssables et d'une manière générale dans votre façon de commenter l'actualité, il y a un appauvrissement généralisé qui n'est pas une fatalité, qui est presque organisé en fait.
Oui, je ne sais pas s'il est organisé.
Ben, pas mais au sens d'un complot, oui, mais je veux dire ça. En fait, tout le monde lâche
est,
en disant...
Au sens où il est partout.
Voilà, tout ceci n'est pas finalement si important, le cœur de la chose est ailleurs.
Oui, puis on est sans cesse distrait, et là, il ne s'agit pas que des jeunes. Le portable, même pour les adultes, c'est quand même souvent un fléau.
Ah non, mais je suis en train de préparer la matinale de demain.
Hein. voilà. Qui nous empêche d'être... qui empêche très souvent toute profondeur. C'est-à-dire que dès qu'on a un moment où l'ennui commence à poindre, où on pourrait s'abîmer dans certaines réflexions qui ne sont pas forcément toujours agréables, mais qui sont importantes, eh ben, très souvent, on va avoir le réflexe de combler ce vide qui commence à poindre par le portable.
Ça s'appelle de la facilité, en fin de compte.
Alors, vous avez un remède un peu moins simple à mettre en œuvre, mais néanmoins, une fois qu'on en a pris l'habitude, c'est lorsque mon ciel est lourd, il m'arrive parfois d'apaiser ma mélancolie en flânant dans un cimetière. Donc, vous allez voir dans les cimetières. J'ai nulle volonté morbide là-dedans, aucun voyeurisme non plus, plutôt cette envie irrépressible de faire corps avec mes semblables. Dans le carré des morts, à l'abri du monde, c'est différent. On se comprend, ils savent, ils écoutent, ils me parlent. À travers les plaques, à travers l'aspect de la tombe, à travers la fraîcheur variable des bouquets, ils me racontent leur histoire, celle de cet homme mort au front, à qui les anciens combattants prisonniers de la Première Guerre mondiale rendent hommage, celle de cette femme qui n'a pu résister qu'un mois à la mort de son mari. Ici, les silences ne sont jamais gênés, ils sont profonds, les mots sont pesés et rares. C'est quelque chose que vous cherchez dans la langue, et ce qui est peut-être d'ailleurs un paradoxe pour un journaliste, faire en sorte que les mots soient pesés et rares.
Oui, alors c'est peut-être dû à mon caractère, je suis quelqu'un d'assez réservé, donc j'aime le silence, j'aime la contemplation, et c'est vrai que j'aime aller dans les cimetières... Mais aussi parce qu'il y a quelque chose, on emploie à tort et à travers le mot authentique aujourd'hui, très souvent pour des choses qui ne le sont absolument pas. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait, notamment dans les enterrements et aussi dans les cimetières, une authenticité qui est parfois difficile à. Dont l'équivalent est parfois difficile à retrouver dans la vie. Et ouais, je trouve que c'est. C'est une façon d'être vrai assez facilement. Alors, ça ne veut pas dire que je souhaite la mort de mes proches pour vivre des moments vrais loin de là. Mais en revanche, oui, j'ai toujours aimé flâner dans les cimetières. J'espère que ce n'est pas trop
malsain
ou morbide comme occupation.
Moi, je trouve ça très beau, mais je le fais aussi. Donc...
Voilà, bah, très bien, on est plusieurs. Voilà. Voilà, on va tous se rassurer, on va faire un groupe de paroles sur ceux qui visitent les cimetières. Je leur confie ma difficulté à dire l'immensité de mes sentiments et la souffrance des vivants, et je ressens l'unité. Grâce à eux, je vis quelques secondes d'éternité. Dans ce qui vous a amené à la foi catholique, est-ce que c'est aussi ce type de sentiment? On a l'impression que quand vous rentrez dans cette cathédrale à 18 ans, peu à peu, c'est comme si... toute la cathédrale devenait lisible en quelque sorte. Il y a une vous y rentrez en touriste, avec malgré tout une voix qui vous dit tiens, il faudrait que tu y rentres, enfin, comme une motion intérieure. Et quand vous y êtes, c'est peu à peu la cathédrale qui vous parle et c'est tout le sens de cet édifice multiséculaire, c'est toutes les prières lentement sédimentées dans les murs, c'est toute cette patine qui prend un sens. Et est-ce que c'est ces secondes d'éternité que vous cherchez dans votre foi ou au contraire quelque chose de moins paisible, de plus vivant, de plus turbulent?
Tout à fait. Ben moi, en fait, c'était le jour de mes 18 ans, l'entrée dans la cathédrale, et je faisais un bilan des 18 premières années de ma vie, et j'avais tout bien réussi aux yeux du monde. C'est-à-dire que j'avais une famille aimante, j'avais des amis, j'avais beaucoup voyagé, j'avais un projet d'études supérieures, voilà, j'avais un travail, enfin, j'avais tout pour être heureux. Mais pourtant, dans cette cathédrale, ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, et c'était la spiritualité, c'était le sacré que je n'avais pas. Et en fait, quand on se rend compte, quand on retire la religion, quand on retire le sacré, la spiritualité, vous avez d'autres spiritualités de substitution qui vont venir se greffer pour essayer de remplacer ça. Ça peut être la consommation, ça peut être le marché, ça peut être le communisme, ça peut être plusieurs idéologies. Et en fait, on se rend compte que ça ne satisfait pas les gens. Et moi, j'appartiens à une génération qui est saturée d'informations. C'est-à-dire qu'on passe des heures et des heures par jour sur nos téléphones, sur nos réseaux sociaux, etc. Mais pourtant, on est affamé de sens, parce qu'il n'y a plus de sens à nos vies. C'est un peu le paradoxe de l'abondance. C'est qu'on n'a jamais eu autant de loisirs, autant de divertissements, autant accès à des films, à des séries, à des loisirs de toutes sortes. Et pourtant, on est vachement vide et très seul. Et le retour à l'église, c'est justement ça, c'est l'aspiration à quelque chose de plus grand. C'est qu'on ne veut plus seulement consommer, s'amuser dans une table ronde de plaisirs éphémères. On aspire à quelque chose de vrai, à une vérité qui s'impose à nous et qui apporte des réponses aux questions existentielles.
Et la langue française est un vrai bien commun. Et là, effectivement, elle est large, elle est vaste. De temps en temps, je vais sur les sites du musée des outils qui est en province et avec l'incroyable complexité, même pas complexité d'ailleurs, l'incroyable diversité des noms des différentes haches. Il y a des dizaines et des dizaines de haches, de marteaux et de scies qui ont chacune leur nom parce qu'elles correspondent à un métier, à un usage. Là, on parlait d'être d'addictif tout à l'heure, mais il y a un mot français qui est assuétude et qui désigne justement le fait d'être sous l'emprise de quelque chose et de ne pouvoir s'en détacher. Et donc l'anglicisme addiction à chasser assuétude, ce qui est presque dommage. Et est-ce que la langue est un lieu commun et en même temps un bien commun dont le vocabulaire est une richesse inépuisable et qui peut être partagée par tous? Est-ce que ça ferait partie des choses qui permettraient de rebâtir justement un sens, ne serait-ce qu'en permettant aux gens de nommer le réel plutôt que d'être enfermés dans un vocabulaire si pauvre qu'ils sont obligés de subir et de ressentir sans rien comprendre?
Oui.
Ma question est super fermée. Hein. C'est pas une question. C'est pas une question, c'est une profession de foi.
Oui, ce qui m'a frappé lorsque j'enseignais à Saint-Denis, c'est le peu de mots de vocabulaire que certains élèves avaient. Et c'est indéniablement un enfermement d'avoir peu de mots de vocabulaire pour exprimer ce que l'on ressent, pour trouver les mots justes pour exprimer ce que l'on ressent. Donc, je ne peux répondre que oui à votre longue question fermée.
Il nous reste 7 minutes à passer avec vous, Samuel Piquet. Dans les derniers mots que vous avez repérés, puisque donc, l'avantage de ce dictionnaire des mots haïssables, c'est d'une part qu'il nous permet de haïr, mais merci de cette libération de la parole. quels sont les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire de 2023 et qui pourraient être dans la réédition?
Alors, il y en a énormément. J'en ai noté énormément depuis. J'avais d'ailleurs l'intention de faire un dictionnaire un peu plus étoffé la prochaine fois. Je sais pas si ce sera possible, je l'espère. Mais il y en a énormément, bien sûr.
Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui teinte à la faveur de la mort de Quentin Doran, que des municipales, des présidentielles qui s'approchent
Bah, il y aurait peut-être l'arc républicain, parce qu'il il épouse comme par magie les contours idéologiques du locuteur. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. J'ai pas la liste ici, mais j'en ai déjà repéré pas mal. Oui.
Voilà, donc on sait qu'on va avoir un tome 2. Vous dites, je crois que le premier volume a réuni suffisamment de suffrages pour que l'éditeur soit content, si je ne m'abuse.
Je l'espère.
Il ne vous l'a pas dit.
S'il nous écoute. Voilà. J'espère voilà. qu'il sera d'accord.
Mais voilà, en tout cas, j'espère moi aussi qu'il sera d'accord. Je parlais, parce que je parle beaucoup, normalement j'interviewe les autres, mais tant pis. Voilà. Et dans votre livre, Joshua, vous citez vous aussi beaucoup d'exemples de choses qui ont disparu et qui sont néanmoins tout à fait importantes, parce que on voit bien que ce petit fait vrai de la manière dont une forge en Haute-Savoie a fermé son atelier, en fait, dit beaucoup plus de choses. Dans les villages de France agonisent les derniers dépositaires des savoir-faire millénaires. Le forgeron de Haute-Savoie a fermé son atelier l'an dernier. Ses mains savaient dompter le fer rouge, façonner la matière rebelle. Mais qui veut encore de ferronnerie artisanale quand l'industrie chinoise produit des copies à bas prix? Son petit-fils préfère devenir développeur web. Il gagnera mieux sa vie dans cette économie immatérielle qui fait sa fortune sur le digital. Le dernier maître de verrier de Chartres cherche en vain un apprenti. Ses doigts connaissent les secrets du plomb et de la soudure. Ses yeux savent lire la lumière dans le verre coloré. Mais l'art du vitrail ne nourrit plus son homme. Les églises n'ont plus les moyens de l'entretien et les particuliers préfèrent les vérandas uniformes. Et ça, c'est vrai, si j'ose dire. C'est pas une parabole que vous inventez. C'est des choses que vous êtes allé chercher et qui vous ont ému.
Mais c'est le réel, évidemment. Évidemment, la France a perdu le sens du travail, je pense, parce qu'elle a perdu le sens de Dieu. Et nous avons une crise économique, nous avons une crise du travail pour beaucoup de raisons, une crise des salaires. Mais il y a avant tout une crise de la spiritualité au travail, c'est une crise anthropologique. On a cessé de voir le travail comme une participation à l'œuvre créatrice, pour n'y voir qu'un moyen de le consommer. Et Jean-Paul II l'avait dit, c'est pas le travail qui est fait pour l'homme, c'est l'homme qui est fait pour le travail. Le Christ lui-même a travaillé de ses mains pendant 30 ans à Nazareth, avant de commencer son ministère, et je pense que c'est ça que les chrétiens doivent défendre, c'est avant tout la production et l'artisanat, tout ce qu'on est en train de détruire en France.
Dans ce que vous évoquez, il y a aussi une perte des savoir-faire. J'avais fait un dossier il y a quelques années pour Marianne sur les produits fabriqués encore en France, et j'ai été frappé par le nombre de savoir-faire que nous avons perdu. C'est-à-dire que, par exemple, pour fabriquer des montres françaises, la personne que j'avais interrogée était contrainte d'aller en Suisse parce que plus personne ne fabrique de montres en France, plus personne quasiment ne sait fabriquer de chaussures, ne sait fabriquer de peluches. Il y a une perte terrible, et c'est d'autant plus dommage qu'il y a quand même, au-delà du travail manuel, il y a des connaissances qui sont très intéressantes dans les travaux manuels. Et paradoxalement, il y a beaucoup de travaux du tertiaire, de métiers du tertiaire, dans lesquels il y a pratiquement maintenant aucun travail intellectuel. Et il y avait eu cet essai Éloge du carburateur, je pense aussi.
Oui, remarquable.
Je pense aussi à Jean-Laurent Casselli qui avait écrit un livre sur la révolte des premiers de la classe. En s'inspirant un peu du titre de Christopher Lasch, et qui expliquait qu'il y avait une sorte de renversement avec beaucoup de gens qui se rendaient compte que dans les travaux un peu plus manuels, il y avait presque plus de réflexion que dans certains travaux répétitifs maintenant du tertiaire.
Ce sont beaucoup des tâches exécutives.
Alors, exactement. Dans les 2 minutes qui nous restent, et avant que vous partiez, que pensez-vous de ces mots mal construits, paralympiques, avec l'omission du O, flexitarien?
Flexitarien, c'est... Je crois que je le dis d'ailleurs dans Dictionnaire des mots haïssables, c'est un omnivore qui s'ignore, hein, et qui se retrouve conscientisé par les injonctions de Juliette Binoche de ne pas manger de viande le lundi. Mais ce sont des mots un peu nouveaux, mais qui n'apportent rien, puisque en réalité, ça existait déjà. Alors, simplement, un omnivore va peut-être manger un peu plus de viande qu'un flexitarien, mais en réalité, il n'est pas obligé. Un omnivore mange de tout, il peut décider de manger un petit peu moins de viande. Le mot paralympique, j'avoue que je n'y ai pas réfléchi.
Bon, ben, voilà. Alors, j'ai lu dans un roman de Roger Perfit, « Je téléphone pour nous contremander. Connaissez-vous ce néologisme ?» Non. Alors, je suis, moi non plus, donc je suis allé voir sur le CNRTL. Avertir quelqu'un de ne pas exécuter l'ordre qu'on a donné, de ne pas se rendre à l'invitation qu'on a faite. On avait convoqué cet officier, il a été contremandé. Par analogie, il avait demandé sa voiture, il l'a contremandée. Il avait commandé un dîner, il l'a contremandé. Donc voilà, on aura appris. Je ne sais pas si c'est un néologisme, parce que le CNRTL ne nie rien sur, sur la, l'étymologie, mais on est bon. Merci beaucoup,
merci à vous.
Samuel Piquet, de nous avoir permis de mieux découvrir l'auteur de ce livre remarquable, Le Dictionnaire des mots haïssables, donc, qui est paru en 2023 aux éditions du Cherche Midi. Donc l'auteur n'a toujours pas dit en 3 ans à Samuel si le bouquin était bon ou pas et s'il s'était bien vendu. Faites en sorte, chers auditeurs, que le Cherche Midi soit obligé de crouler sous les commandes. Voilà. Merci beaucoup,
merci à vous.
Samuel Piquet.
Thank you.